Les prévôts généraux de Languedoc. Le titre de prévôt, praepositus, le préposé, est très ancien dans la monarchie franque. Il désignait d'une manière générale le suppléant d'un officier public. Ce fut le titre des premiers juges royaux ou seigneuriaux, mais il fut également donné aux chefs de certaines communautés d'artisans. Enfin, dans certains chapitres, le titre de prévôt servait à désigner la première ou la seconde dignité, dans d'autres, il représentait un simple office. Du point de vue judiciaire, on désignait sous le nom de prévôts royaux, les juges qui rendaient la justice du premier degré sous les directives des baillis et sénéchaux. La juridiction militaire, attachée au commandement des connétables et maréchaux de France, était exercée par un magistrat auquel on donna le nom de prévôt des maréchaux. Cet officier, d'abord unique, fut par la suite secondé par des lieutenants que l'on installa dans toutes les provinces du royaume. Leur mission était de chevaucher continuellement les campagnes pour exercer leur juridiction, d'abord sur les gens de guerre, puis sous François Ier, sur les voleurs et les vagabonds.
Présentation du dossier.
Ce dossier est consacré aux prévôts généraux de Languedoc. Il comporte trois chapitres. Premier chapitre, généralité sur les prévôts. Deuxième chapitre, organisation territoriale du Languedoc. Troisième chapitre, la grande réforme.
Premier chapitre. Généralité sur les prévôts.
Lorsque François Ier accéda à la couronne, il n'y avait que deux maréchaux de France. Ce prince augmenta leur nombre pour le porter à quatre. Il commandait les armées sous les ordres du roi ou du connétable de France et quand cette charge n'était point honorée, il commandait les armées comme généraux en chef. La juridiction militaire, qui a toujours été attachée à ce commandement, était exercée sous leur autorité par un seul officier dénommé prévôt. Avant la création des compagnies d'ordonnance, qui furent à l'origine de l'armée de métier, cette charge ne s'exécutait pleinement qu'en temps de guerre à la suite des troupes. La paix revenue, les troupes levées pour la guerre étaient licenciées et cet officier n'avait plus de fonction comme cela fut réglé entre lui et les officiers de la connétablie à la table de marbre, par lettre patente de Charles V du 13 décembre 1374. Sous Charles VI, les factions menées par ses oncles et autres grands vassaux étaient souvent en guerre, ce qui obligeait le roi d'être le plus souvent aux armées. Pour juger les crimes qui s'y produisaient, ce roi fut le premier à attacher le prévôt des maréchaux à la suite de la cour pour y exercer en campagne les fonctions qu'il exerçait à la suite des armées. Cependant, le prévôt des maréchaux n'avait cette juridiction à la suite de la cour que hors Paris, dans les marches ou chevauchées, ou dans les camps et armées du roi. Avec la création des compagnies d'ordonnance, que le roi avait installées dans différentes villes aux frontières du royaume, il fut très vite impossible à cet unique officier d'accomplir pleinement sa mission sur la discipline des troupes, qu'elles soient en garnison ou en campagne. On lui adjoignit alors des lieutenants et un certain nombre d'archers chargés de recueillir et d'informer les plaintes formées par les habitants du pays sur les excès commis par les soldats. Cependant, aux exactions commises sur les populations par les militaires de ces compagnies s'ajoutaient celles perpétrées par les soldats licenciés. Le nombre de plaintes ne cessait d'augmenter et les capacités opératives du prévôt des maréchaux et de ses lieutenants furent très vite atteintes à leur tour. Louis XI permit alors au prévôt des maréchaux de commettre en chaque province un gentilhomme pour le représenter, avec pouvoir d'assembler, selon les occasions, les nobles et autres gens du pays pour s'opposer aux gens de guerre, aventuriers et déserteurs qui pillaient les habitants des campagnes. Leur rôle se bornait alors à les capturer et les remettre aux baillis et sénéchaux afin qu'ils soient jugés. Cette expérience s'étant révélée efficace, la couronne voulut la pérenniser en nommant, à la place de ces gentilshommes volontaires, des officiers capables d'exercer continuellement cette fonction et dont l'autorité ne saurait être remise en cause ni par les notables, ni par les habitants du pays. Peu à peu, ces simples commissions furent changées en titres d'office en faveur de plusieurs provinces par autant de lettres patentes particulières, de sorte qu'à la fin du règne de Louis XII, chaque province avait son prévôt des maréchaux. Pour exécuter pleinement leur mission, chacun de ces officiers eut la liberté de se choisir leurs lieutenants et archers suivant le nombre fixé par ordonnance. Dans les grandes provinces comme celle du Languedoc, ces officiers prirent le titre de prévôts généraux suivi du nom de la province, les autres étaient qualifiés de prévôts particuliers ou provinciaux suivi du nom du lieu de leur résidence. Avec l'édit de janvier 1514, François Ier augmenta le pouvoir des prévôts des maréchaux sur la discipline militaire. Les prévôts à la suite des maréchaux, appelés prévôts ordinaires, étaient plus particulièrement chargés de la surveillance des compagnies d'ordonnance pour mieux faire justice, tenir ordre et police aux chdic gens de guerre, et corriger les fautes, oppressions et pilleries que lesdits gens de guerre pourront faire au peuple. Afin de pouvoir exercer une surveillance continuelle, il parut nécessaire de créer un magistrat spécialement chargé de l'exercice de la justice au sein des armées, et pourront commettre lesdits prévosts sans chacune compagnie un homme de bien lieutenant, pour administrer justice et s'il y en a aucun qui est enfreint et transgressé l'esdict ordonnance, qui soit un gens qui n'est accoustumé de faillir, en ce cas pourront recourir à mon dit seigneur le comptable, pour en avoir de ceux. Grâce et pardon. On donna à ces officiers le titre de prévôt des bandes et, lorsque ces bandes furent transformées en régiments, on les nomma prévôt de l'armée. Qu'ils soient prévôt ordinaire ou prévôt des bandes, ils devaient remettre au juge des lieux tous les malfaiteurs qui ne relevaient pas de leur juridiction, même ceux qui se trouvaient mêlés avec les troupes. Cette règle fut cependant modifiée graduellement au cours des ans pour aboutir à l'édit du 3 octobre 1544 qui élargit la compétence des prévôts des maréchaux et leur accorda la justice non seulement sur les gens de guerre, mais aussi sur les vagabonds et autres malfaiteurs qui tiennent les champs et y commettent des vols, violences et autres crimes. Ces cas particuliers furent nommés cas prévôtaux. Les prévôts installés dans les provinces, désignés sous le nom de prévôts subsidiaires, n'eurent initialement d'autre pouvoir que celui d'arrêter les malfaiteurs avec leurs archers pour les remettre aux justices ordinaires. Cependant, leur charge étant équivalente à celle exercée par les prévôts des maréchaux, ils furent, comme eux, pourvus des mêmes pouvoirs et juridictions. Cet élargissement fut essentiellement dicté par la fronde des baillis et des sénéchaux qui avaient été privés, quelques années auparavant, de la voie délibérative qu'ils avaient dans l'administration de la juridiction contentieuse. Ainsi, pour manifester leur mécontentement, ils cessèrent d'accomplir leurs devoirs. Leur conduite ne tarda pas à remplir de voleurs et de vagabonds la plus grande partie du royaume. Les soldats licenciés après la paix faite avec Charles Quint au mois de septembre 1544 et les déserteurs des troupes maintenues se mêlèrent aux libertins pour commettre des violences, des vols et autres maux. Cette situation détermina François Ier à augmenter par un édit solennel du 3 octobre 1544 la compétence des prévôts des maréchaux. Il leur accorda pour la première fois par concurrence et prévention avec les baillis et sénéchaux la justice, correction et punition d'une part sur les gens de guerre qui déstabilisaient le service ou les garnisons et d'autre part sur tous les vagabonds et autres malfaiteurs qui évoluaient dans les campagnes pour y commettre des vols, des violences ou autres semblables crimes. Les prévôts des maréchaux avaient deux fonctions, la première qu'ils exerçaient comme officiers militaires et la seconde comme officiers de justice. En tant qu'officiers militaires, ils étaient tenus, au terme des ordonnances, de mettre à exécution les décrets et mandements de justice, de prêter main forte lorsqu'ils en étaient requis. Pour mener à bien leurs obligations, on leur adjoignit des subordonnés, lieutenants, exempts, brigadiers, sous-brigadiers, archers ou cavaliers. En qualité d'officier de justice, le prévôt disposait d'un tribunal composé d'assesseurs, de procureurs du roi et des greffiers spécialement établis à cet effet et choisis par le roi. Ils exerçaient leur juridiction dans le présidial du lieu où avait été commis le délit. Les jugements étaient intitulés au nom du prévôt, cependant la sentence n'appartenait qu'au président du siège ou, en son absence, au lieutenant criminel. Cette juridiction fut appelée juridiction prévôtale.